Bonsoir. Le chef de la MONUSCO affirme que les principales conditions à remplir pour faire avancer les processus politiques en RDC sont notamment la publication d'un calendrier électoral réaliste et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Maman Sidikou l'a déclaré mercredi dernier à New York lors de la séance consacrée au débat du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la MONUSCO. Depuis quelque temps, la résurgence de l'activisme des groupes armés est observée dans certaines parties du pays. C'est le cas notamment d'Uvira avec les Mai Mai Yakutumba, Beni avec les rebelles ougandais de l'ADF et Walendu Bindi avec la milice FRPI. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Rombo Otaba, il est journaliste au journal L'Observateur, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Rombo Otaba.
Bonsoir Guy Maté, j'en profite pour saluer tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Richard Chaco, rédacteur en chef à la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir. Bonsoir Richard Chaco.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Et Georges Kassongo, chargé de programme et information de Hope Channel TV, basé à Kindu Maniema. Bonsoir Georges Kassongo.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir chers confrères et tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder les débats de ce soir, Alain Irung revient sur les sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. On l'écoute dans cette revue de presse qu'il nous propose.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa abordent plusieurs sujets d'actualité. Commençons par la réaction jeudi du président du Rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi, aux projections du président de la CENI au sujet de l'organisation des élections en RDC. Selon ces projections faites par le président de la CENI, il faudrait 504 jours après la clôture de toutes les opérations d'enrôlement pour organiser les élections en RDC. Pour Félix Tshisekedi, cette projection n'est rien d'autre qu'une énième forfaiture du président Kabila et de Corneille Nanga, rapporte le site web d'info casinfo.ca. Un son de cloche relayé par le Phare qui, scrutant cette sortie médiatique du président du Rassemblement, titre en manchette « Félix Tshisekedi pour une courte transition sans Kabila et Nanga ». Pour sa part, le gouvernement attend la convocation de la tripartite Sensa-Séni-gouvernement avant de se prononcer sur les projections de Nanga, indique de son côté la qui s'appuie sur une interview que le porte-parole du gouvernement Lambert Mende lui a accordée jeudi. S'intéressant à la séance du Conseil de sécurité sur la situation en RDC, la Prospérité note « Conseil de sécurité, en RDC, la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre se heurte à des défis persistants selon le représentant spécial. Dans la même veine, le potentiel souligne des crispations politiques » sans remettre à la SENCO. L'actualité a aussi tourné cette semaine autour des députés nationaux de l'opposition qui boycottent les plénières à l'Assemblée nationale depuis le rejet vendredi dernier des motions de défiance contre les ministres de la Justice Alexis Tambwe et de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari. Dépêche.cd titre « Les députés de l'opposition veulent la tête de Minaku ». Ils accusent le président de l'Assemblée nationale de partialité dans la gestion des motions de censure contre les membres du gouvernement. L'Avenir décrit cette attitude et pense que l'opposition vise le chaos. L'heure est grave, dans les couloirs de l'hémicycle renchérit la Prospérité. 7sur7.cd reprend l'appel du mouvement citoyen Compte à rebours et appelle les députés de l'opposition à la responsabilité. Quitter définitivement le Parlement. Terminons par un autre sujet qui a intéressé la presse congolaise. Il concerne les attaques des positions des casques bleus de la MONUSCO dans l'est de la RDC. L'ONU exige la lumière sur l'attaque meurtrière contre la MONUSCO, annonce actualité.cd. La même information est reprise dans les colonnes de politico.cd qui indique que le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU ont rappelé tous les groupes armés du pays à déposer leurs armes et ont souligné que les attaques visant les forces de maintien de la paix pouvaient constituer des crimes de guerre au regard du droit international.
Merci Alain Irung. Rombo Taba, un petit commentaire. Vous êtes journaliste au journal L'Observateur, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité est également dominée par la crise à l'Assemblée nationale où les députés de l'opposition continuent à boycotter les travaux en plénière. Votre commentaire.
Oui, mais je comprends pourquoi en son temps Félix Tshisekedi avait prévenu les députés issue des élections catastrophiques de 2011 qu'il ne valait pas la peine d'aller siéger dans cette assemblée-là. Et aujourd'hui, je crois que là où il est, il s'est dit qu'il avait vraiment vu vrai. Et je crois que les Congolais de bonne foi aujourd'hui doivent comprendre que cette Assemblée nationale d'Obeminako aujourd'hui n'est qu'une chambre d'enregistrement. Je crois que même à l'époque du Parti État, le Conseil législatif n'avait pas connu une période aussi sombre que celle-là où les députés n'ont plus la marge de manœuvre. Puisqu'à ce moment-là, à l'époque, on voyait les interpellations, les commissaires d'État qui tremblaient devant les commissaires du peuple. Du moins, on sentait qu'effectivement, le Conseil législatif de l'époque était l'entrée de la démocratie, entre guillemets. Mais aujourd'hui, nous avons reculé, nous avons terriblement reculé à voir ce qui se passe dans cette assemblée-là. Moi, je pense que, bon, s'ils sont sérieux avec eux-mêmes, autant laisser le bureau actuel continuer son théâtre.
Richard Chacour, rédacteur en chef à la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir. L'actuelle assemblée nationale peut être considérée comme une simple chambre d'enregistrement, comme le dit Rombo Taba. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je ne partage pas ces points de vue parce que l'Assemblée nationale avec le Sénat, c'est une institution au même titre que le gouvernement, le président de la République et puis les cours et tribunaux. C'est vrai, ce qui se passe à l'Assemblée nationale étonne plus d'une personne et ce n'est pas la première fois que les députés nationaux de l'opposition puissent claquer la porte pour une raison ou pour une autre. Cette fois-ci, il me semble qu'il y avait un compromis qui a été trouvé, que désormais aucune motion incidentielle peut porter obstruction à une motion de défiance ou de censure. C'était ça ce qui a été trouvé comme compromis, parce qu'en en temps, il y a eu aussi des députés de l'opposition qui avaient claqué la porte pour dénoncer chaque fois quand on interpelle un membre du gouvernement, quand les députés nationaux de l'opposition, bien sûr, tout le monde veut exercer leurs droits, ils sont toujours contrés par leurs collègues de la majorité. Mais cette fois-ci, avec ce qui s'est passé à la semaine dernière, vendredi passé, l'honorable Zakaria Barabasso avec sa motion sénatoriale, ce qui a fait qu'ils puissent quitter. Ils ont raison.
Et jusqu'où pourrait aller cette opposition? Elle peut aller jusqu'où?
Oui, mais je crois que l'opposition veut monter les enjeux. Hier, à la plénière, le président Robert Minaku a quand même lu les deux correspondances qu'il a reçues et de l'opposition de la majorité. Mais on a remarqué que dans ces deux correspondances, chaque camp restait campé, si vous pouvez le dire, dans sa position. Minaku avait dit qu'il va appliquer le règlement. Mais avec la voix de la sagesse de l'honorable Lokondo, qui a dit non, ce n'est pas question d'appliquer le règlement. Il y a encore moyen d'appeler l'opposition pour trouver un compromis. Parce qu'une fois l'opposition reste dehors, et surtout qu'avec la matière à traiter, il y a la loi sur la répartition des séries, il y a beaucoup de lois, et aussi avec la correspondance de l'État qui leur demandait de prioriser certaines lois. Je crois que ce serait une assemblée nationale monocolore. Donc le président Minaku a intérêt à approcher celle de l'opposition, à trouver un compromis. Pourquoi la majorité veut toujours contrer les motions de défiance? Parce que si vraiment elle est majoritaire, la majorité, elle est majoritaire, passez-moi la tautologie.
Il faut aller jusqu'au vote.
Bout, comme pour vous démontrer que non, c'est que vous reprochez à un membre qui appartient à une famille politique, nous allons les protéger.
Voilà. C'est ça. Georges Kassongo, je vais vous redonner la parole, Rombo Taba. Georges Kassongo, chargé de programme information de Hope Channel TV basé à Kindu Maniema. Cette crise, Richard Chaco a commencé à en parler. Cette crise est née suite au recours à cette motion incidentielle. Et à votre avis, comment peut-on solutionner, comment peut-on trouver une solution à ces problèmes par rapport au recours à la motion incidentielle?
Voilà, la motion incidentielle, c'est dans les us et coutumes parlementaires, c'est une chose d'ordinaire qui règle parfois les débats, qui calme les ardeurs de certaines plénières. Mais lorsque les motions ont pour mission de bloquer la machine, de protéger une certaine notion de protectionnisme dans les motions, ça devient tout à fait inconcevable. Parce que vous savez, parmi ces missions, les bureaux de l'Assemblée, c'est aussi de servir de boîte à lettres, de recevoir les hôtes, mais aussi de diriger les plénières. Mais lorsque la machine, le bureau en soi, s'érige en une véritable machine pour bloquer la démocratie ou bien cautionner certaines manœuvres peu démocratiques, nous trouvons qu'il y a un problème au bureau. Parce qu'on entendrait également qu'il y aurait une motion qui viserait le président de la Chambre basse. Ça, bon, voyons d'abord où ça va. Mais nous pensons qu'avec des motions incidentielles qui ont pour vocation de bloquer la marche de la démocratie. Vous savez qu'au gouvernement, il n'y a pas une démocratie. Mais la démocratie respire, peut bien respirer qu'au niveau du Parlement. Et lorsque au niveau du Parlement, il y a maintenant des manœuvres qui sont là pour bloquer les mandats, la mission des députés. Et à côté là-bas, vous savez que ce sont les arrêts de la haute cour qui sont foulés aux pieds, ce sont les députés qui sont bloqués, et maintenant ça devient que des immers, des états d'esprit qui s'érigent en loi. Vous savez qu'il y a un problème et la démocratie porte un coup fatal, et nous estimons que les députés, étant que élus du peuple, avec un mandat, ils ont mille et une possibilités de sanctionner, d'amender les règlements d'ordre intérieur. Et si c'est les bureaux qui orchestreraient, dans les cas où les bureaux orchestreraient certaines manœuvres comme cela, la plénière elle est souveraine, il fallait voir comment sanctionner ou bien remettre de l'ordre au sein de l'Assemblée qui doit demeurer le dernier temple de la démocratie en RDC.
L'Assemblée doit demeurer le dernier temple de la démocratie en RDC, comme le dit Georges Kassongo. Rombo Taba, vous demandiez la parole.
Oui, je disais qu'on ne peut pas continuer à diriger un pays comme ça, comme si vraiment, pour confirmer que nous sommes dans une république bananière. À propos de cette histoire des motions incidentielles, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a tout réglé. Hein, lors de la dernière session, il s'est produit un problème comme ça et la Cour constitutionnelle a déjà donner son point de vue là-dessus. Et moi, je ne comprends pas que Zakari Bababachoué puisse revenir avec une imposture à ce niveau-là.
Il est député national.
Oui, oui. Mais lui, qu'est-ce qu'il n'a pas dit à certains qui, moi, qu'il irait au palais du peuple avec le fouet pour essayer de réglementer. Est-ce que ce qu'il a fait là-bas, c'est ça?
Merci. Nous abordons notre premier thème de ce soir. Le chef de la MONUSCO affirme que les principales conditions à remplir pour faire avancer le processus politique en RDC sont notamment la publication d'un calendrier électoral réaliste et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Mamane Sidikou l'a déclaré mercredi dernier à New York lors de la séance consacrée au débat du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la MONUSCO. On l'écoute à la radio des Nations Unies à New York.
Je souhaite souligner l'engagement de la MONUSCO à soutenir, à travers ses bons offices, les principes de l'accord du 31 décembre. Principes qui représentent la seule voie viable de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, la publication d'un calendrier électoral réaliste, l'établissement d'un budget pour la tenue des élections, la mise en œuvre des mesures de décrispation et la garantie du respect des droits et libertés fondamentales sont les principales conditions à remplir pour faire avancer le processus politique. À cet égard, le soutien des Nations Unies, tout en étant essentiel, ne sera pas suffisant. En effet, les acteurs de la région, notamment l'Union africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe, la Conférence économique des États d'Afrique centrale, ont un rôle essentiel à jouer pour aider toutes les parties prenantes à la République démocratique du Congo à relever les défis auxquels elles sont confrontées et soutenir les progrès réalisés dans le processus politique en vue de la tenue des élections. Ce n'est qu'en travaillant ensemble et de manière solidaire et en synergie que les obstacles auxquels la République démocratique du Congo se heurte maintenant pourront être surmontés.
Présent à cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, le ministre des Affaires étrangères qui conduit la délégation de la RDC a par ailleurs promis la publication imminente du calendrier électoral. Léonard Fiokitundu est au micro de la radio des Nations Unies à New York.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, mon pays a bel et bien mis le cap vers les élections. La question que chacun de vous se pose aujourd'hui est celle relative au calendrier électoral. C'est pour répondre à cette préoccupation que le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral a procédé conjointement avec la CENI et le gouvernement à une évaluation du dit processus. Le calendrier sera donc publié incessamment. Toutefois, vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'à deux reprises, la CENI a eu à publier deux projets de calendrier en 2014 et 2015 qui non seulement ont été systématiquement rejetés par l'opposition, mais également n'ont pas bénéficié du soutien attendu de la communauté internationale. Cela a eu comme conséquence le report des élections jusqu'à ce jour. Par ailleurs, pour des raisons d'ordre logistique, financier, sécuritaire et normatif, le président de la CENI a déclaré il y a quelques mois que les trois élections couplées prévues pour décembre 2017 ne pourront pas se tenir à cette date. Quant à la possibilité du report des élections, les dispositions du chapitre 4.4.2 de l'accord politique du 31 décembre 2016 l'ont également prévu.
Entre-temps, le président de la CENI rappelle qu'il faudrait 504 jours après la clôture de toutes les opérations d'enrôlement pour organiser des élections en RDC. Rombo Taba, journaliste au journal L'Observateur, un quotidien qui paraît à Kinshasa, la MONUSCO tient à l'accord du 31 décembre 2016 une des conditions à remplir pour faire avancer le processus politique en RDC.
Oui, mais c'est tout à fait normal. Je pense que la MONUSCO, c'est un partenaire incontournable dans la crise politique actuelle en RDC. Et les responsables de la MONUSCO ne peuvent dire que ça, parce qu'ils continuent encore à espérer qu'ils ont affaire à des gens civilisés, hein, à des acteurs politiques civilisés. Donc, ils ne peuvent qu'en tenir qu'au texte. Hein, qui régit maintenant la scène politique congolaise. Mais je voudrais quand même faire part de mon étonnement par rapport aux déclarations de M. Corneille Nangaa. M. Corneille Nangaa ne doit pas prendre les Congolais pour des idiots. Il y a des gens sensés encore dans ce pays qui réfléchissent. Au départ, d'abord, à la cité d'Olia, entouré d'experts de l'OIF, M. Nangaa a présenté un chronogramme et... Après discussion, on est arrivé à la conclusion qu'en avril 2018, il était possible d'organiser des élections libres, transparentes et apaisées. Mais il est arrivé qu'en décembre 2016, on a signé un accord et on a trouvé un compromis pour que les élections se passent en décembre 2017. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, le même Corneille Nangaa revient aujourd'hui avec un autre chronogramme. Donc on sent qu'il est tout simplement manipulé.
Romotaba, il est dit que Corneille Nangaa ne fait que rappeler ce qu'il avait dit, parce que vous avez évoqué les dialogues de la cité de l'Union africaine, vous avez évoqué les dialogues du centre interdiocésain, et à toutes ces rencontres, n'est-ce pas, Nangaa a évoqué ce qu'il vient de rappeler aujourd'hui. Il n'avait pas déjà parlé des 504 jours.
Non, justement, c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Il ne doit pas prendre les Congolais, au moins une grande partie des Congolais, pour des idiots. Ça, c'était son plan à lui. Mais lorsque vous venez, Guy Maté, dans une assemblée d'intellectuels c'était au dialogue, mais lorsque on confronte les idées, on tombe sur un compromis, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter le point de vue des autres, de ne pas se camper à sa position. C'est comme ça qu'il est clairement établi qu'il est en train de jouer les jeux de certains acteurs tapis sous l'ombre. Merci. Mais je voudrais tout simplement mettre en garde pour dire que Nangaa croit qu'il va prendre sa retraite à la CENI. Mais ce qui n'est pas possible. Sa gestion aujourd'hui est calamiteuse. Il y a deux jours à Idiofa, les agents sont descendus dans la rue pour réclamer les arriérés de salaire. Nangaa ne croit pas qu'il va prendre sa retraite au niveau de la CENI.
Merci Rombo Taba, Richard Chaco, rédacteur en chef à la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir. Et comment vous jugez les propos de Maman? Est-ce qu'on peut les comprendre comme une interpellation ou comme une simple déclaration?
Non, c'est une interpellation. Je crois que Rombo l'a dit, la MONUSCO c'est un partenaire de taille dans l'organisation des élections, surtout pour ce conseil de la RDC. Et quand Maman Sediko parle d'un calendrier électoral réaliste, je crois qu'il a raison. Là où je ne suis pas d'accord avec... Non, c'est Okitundu qui dit que non, il y a plusieurs fois on a publié le calendrier et rejeté par l'opposition. La majorité ne doit pas prendre ça comme une raison de retarder la publication du calendrier. Non, le calendrier c'est comme la boussole. Ça peut indiquer non, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous allons. Mais quand chaque fois on rappelle, et ça c'est un rappel, parce que avant ça, l'OIF a rappelé, toutes les organes internationaux comme Nations ont toujours rappelé la CENI depuis le calendrier. Je ne sais pas pourquoi la CENI, quand on parle des budgets réalistes, c'est normal, parce que le budget global pour les élections en Grandi, c'est à plus d'un milliard. Mais jusque-là, le gouvernement congolais n'a déboursé que je crois que 340 millions pour l'enrôlement des électeurs. Et pour ce qui est de la contribution des partenaires multilatéraux, jusque-là, on a financé qu'à 6% sur les 123 millions prévus. Pourquoi? Parce qu'il y a des inquiétudes sur le plan politique en RDC. Ceux qui veulent donner l'argent, les partenaires, là, ont encore beaucoup de doutes par rapport au climat politique. Et là où j'ai dit que c'est normal qu'on puisse interpeller. Pour être la déclaration de Nangaa, d'abord, moi, ce que je condamne cette déclaration, c'est sur le point de vue de la forme. Nangaa ne peut pas aujourd'hui nous dire que c'est 504 jours. Non, il doit attendre que la tripartite pour le dire. Est-ce que c'est précipité pour parler de 504 jours? C'est déjà, comme on dit, un ballon d'essai.
Influencer la tripartite.
Non, c'est ça, j'ai dit. Non, il devait se taire. Il devait se taire pour dire que tout le monde sait que c'est impossible d'organiser les élections au 31 décembre 2017. Même l'opposition, le rassemblement, dit que non, 32 sans Kabila, ça c'est un point de vue.
Donc mais il devait attendre la fin des travaux
de la il devait attendre. Et puis, de deux, Rombo dit, Nanga, en réalité, au dialogue de l'Union africaine, d'abord, Nanga, pour commencer par parler de décembre 2018, on lui a dit non, c'est trop loin, il faut écouter. On a écouté en avril 2018, mais quand nous sommes arrivés au centre interne de Césin, on a encore revu ça à la baisse pour dire non, c'est au 31. Là, ce sont des décisions politiques. Mais sur le plan technique, Nanga a dit non, c'est moi qui organise l'élection, c'est moi qui suis l'expert, vous ne pouvez pas m'imposer. Mais comme les politiciens voulaient ce que leur point de vue soit entendu et imposé, Nanga a fait ça. Mais aujourd'hui, quand on parle de 504 jours, je pense que Nanga s'est précipité, doit attendre la tripartite pour qu'on fixe l'opinion sur les 504, qui d'ailleurs est à discuter.
Merci Georges Kassongo, chargé de programme et information de Hop Channel TV basé à Kindu au Maniema. Richard Chako vient de le dire, les politiciens se sont, n'est-ce pas, imposés, ils ont imposé des dates à Nanga alors que lui c'est un technicien. Vous ne pensez pas que les politiciens ont péché par le fait d'avoir imposé des dates à un technicien?
Bon, nous ne pensons pas comme ça parce que il n'y a pas deux ans que Nanga était un illustre inconnu dans ce pays. Il n'avait vraiment aucune renommée en matière d'expertise électorale. Bon, nous savons que l'élection, c'est le peuple congolais. Ce sont les peuples congolais et non de la CENI. Donc la CENI devrait chercher d'abord à comprendre la priorité ou bien les préoccupations du peuple organisateur de ces élections. Dans ces pays, moi je pense que nous commençons à se perdre quelque peu. La préoccupation, ce n'est pas les meilleures élections du monde, mais l'urgence que nous avons, c'est le renouvellement de la classe politique, l'alternance démocratique, mais aussi les retours à l'ordre constitutionnel, parce que d'aucuns n'est que notre constitution a été suspendue. Ça a été complété par un accord entre un petit groupe d'hommes comme ça qui ont suspendu une grande partie. La Constitution n'est plus appliquée dans son intégralité ou bien dans son ensemble. Alors, l'important, c'est de nous organiser même les élections les moins meilleures, mais au moins à temps voulu. C'est ça la préoccupation. Mais demander 504 jours à dater de février 2018, ce qui nous amène mai-juin 2019 pour organiser ces élections. Est-ce que vous ne voyez pas que ça, c'est ce que disait le patriarche Étienne Tshisekedi, provoquer le peuple congolais? Donc nous estimons que Nanga, comme il vient démontrer qu'il n'a pas la capacité, il a dit vrai, il n'a pas cette capacité d'organiser les élections dans les temps voulus par la population ou bien le peuple congolais, que nous sommes lui et nous, alors il pouvait que dans l'Asie, certaines mesures, passer les ponts ou bien quitter la présidence et que aussi aux confessions religieuses, bravo ou bien chapeau bas à l'Église catholique qui, à son temps, n'avait pas trouvé en Nanga les qualités d'une personne qui pouvait diriger cette institution d'appui à la démocratie. L'Église catholique a raison, mais nous demandons les 7 autres confessions religieuses de se remettre en question, de voir que leur crédibilité est mise en mal par la personne qui, disons, que ces confessions-là ont adoubé ou bien qu'ils ont endossé.
Merci.
Et aussi carrément de procéder à son remplacement. Oui.
Merci. Romo Otaba, on revient au discours de M. Maman Sidikou. Au sujet des mesures de crispation politique relevées dans ces discours, nous avons le journal Le Potentiel qui note dans ses colonnes en disant que la MP s'est appliquée à opérer une mise en œuvre sélective de l'accord politique du 31 décembre 2016. Seuls ses intérêts comptent. Dans ses coups de force, l'AMP fait de la décrispation politique le moindre de ses soucis.
Oui, mais ce qui est surprenant, c'est que certains acteurs de l'AMP ont vécu ici dans l'ex-Zaïre. Et ils savent dans quelles conditions le régime de Mobutu a pris fin. Donc Alain Atundu était l'un des architectes. Et ils veulent retomber dans le même schéma. On fait la conférence nationale souveraine, certains proches collaborateurs de Mobutu l'entêtent, ils disent que les résolutions de la conférence nationale souveraine ne vont pas franchir la clôture du palais du peuple, et nous savons comment il est parti un certain 16 mai 1997. Et croyant que ce qui est arrivé à ce régime-là était pour cela, et qu'ils se croient
je ne sais pas, plus fort que quiconque, ils sont sourds à tous les conseils, à toutes les recommandations qui leur sont faites. Et je suis en train de me demander si nous n'allons pas revivre les mêmes scénarios. Parce que, comme on dit, vanité de vanité, tout est vanité, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, je ne prédis pas, je ne fais pas le malheur des gens, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je crains fort que nous puissions revivre les mêmes scénarios.
Richard Foucault, est-ce que peut-on parler d'une application sélective de l'accord du 31 décembre, comme l'a dit le potentiel?
Je suis d'accord avec le journal des potentiels quand il parle de l'application sélective, parce qu'on avait donné toute une liste de personnes. Les rassemblés ont donné les noms des personnes, que leurs membres qui étaient arrêtés ou emprisonnés, même si les faits pour lesquels ces personnes n'avaient rien à voir avec, entre guillemets, avec la politique pure, s'il faut le dire. Et parce qu'avec Mouyambo, on a parlé des cas de l'Estelonard, les cas de Diomi Ndongala, on a parlé des viols sur mineurs, et Katumbi, toujours l'histoire de l'Estelonard. Mais au moins, quand ils sont allés au dialogue, ils ont donné les noms. C'est ça qu'on appelle la décrispation. Quand Maman Sidiku parle les inquiétudes par rapport à la décrispation. Non, on voudrait voir que ces gens-là soient aussi libres. On ne doit pas choisir les moindres mâles. Je pense que quand les politiques sont allés en concertation, sont allés au dialogue, les deux dialogues, s'il faut les dire, c'était un compromis qu'ils ont trouvé. C'est-à-dire que ceux qui ont été condamnés doivent recouvrer leur liberté. On ne doit pas dire, parce qu'on nous dit que non, c'est les cas de Diomi Ndongala, les cas de Moïse Katumbi, les cas de Firmé Yangambi, je ne sais pas, on dit que ce sont des cas qui relèvent de la justice et qu'on ne peut pas interférer dans le cas de justice. Non, autant que pour la CENI, on a parlé, les politiques sont imposées pour donner une date, pour donner un délai précis pour raser les exploits, même si c'était irréaliste, autant que aussi sur les plans politiques, ils doivent interférer pour la justice. Parce que sinon, on dira quoi? On a peur de Diomi, on a peur de Moïse Katumbi, on a peur des Mouyambo Kiasa. Non, je crois que quand on parle de décrispation, on devait déjà, parce que l'accord a été signé depuis le 31 décembre, aujourd'hui nous sommes au mois d'octobre, on devait déjà voir ces prisonniers, entre guillemets, emblématiques, soient libérés et qu'on parle de la mise en œuvre de l'accord. Sinon, l'accord est mis en œuvre d'une seule partie. L'autre partie est encore, on a encore des balibuties.
Georges Kassongo, à votre avis, pourquoi cet accord est appliqué de façon sélective?
Oui, l'accord peut être appliqué de façon sélective parce que ce sont des accords, les deux, l'accord du 18 octobre et celui du 31 décembre, tous étaient des accords ouverts. Ce n'étaient pas des accords qui étaient verrouillés alors qu'il fallait verrouiller ces accords. Et maintenant là, les pouvoirs exploitent les faiblesses de cet accord pour l'utiliser à leur manière. Donc si nous disons que l'accord n'est pas encore mise en application, nous disons que l'accord est déjà mis en application en très grande partie. Il faut le voir avec l'œil. Parmi les clauses clés, un gouvernement dirigé par un opposant, même si ce n'est pas celui qu'on voulait, mais c'est un opposant qui est là. Un cessez-le-feu dirigé par un opposant, et disons le président, ça y est arrivé, mais nous voyons aussi pas de référendum, pas de révision, pas de troisième mandat, tout ça, c'est en marche. Nous disons que l'accord est à est déjà mise en application à une très grande partie, malgré pour certains que ce ne sont pas les gens auxquels on s'attendait, mais c'est ça aussi la mise en application. Et c'est aussi ça la faiblesse de ces deux accords, mais au moins jusqu'à présent l'accord est déjà mis en application en très grande partie. Parce qu'il ne faut pas dire que, parce que si ce n'est pas quiconque ou bien ce n'est pas X, Y, ce n'est pas l'accord qui est mis en application, non, l'accord est mis en application. Des choses évoluent. Dire que l'accord n'est pas encore mis en application intégralement, on ne sait pas intégralement, c'est réveiller peut-être les 5 délimités pour lui donner la présidence du CENSA ou bien comment.
Oui, nous avons compris, on doit passer au deuxième thème de ce soir. Depuis quelque temps, la résurgence de l'activisme des groupes armés est observée dans certaines parties du pays. C'est le cas notamment d'Uvira avec les Maïmaï Yakutumba, Beni avec les rebelles ougandais de l'ADF et Walendu Bindi avec la milice FRPI. Plusieurs coins de la République sont confrontés aux problèmes d'insécurité provoqués par des groupes armés. Les provinces concernées sont notamment le sud et le nord Kivu, le Maniema, la province du Tanganyika ainsi que l'Ituri. D'autres détails avec Kéline Kouté.
Toujours au sud Kivu, d'autres combats ont été signalés ces deux derniers jours à Kateka et Burembo sur l'axe routier entre Sebele et Kazimia. Un bataillon de commandos des FRDC appelé Ibu a tenté d'attaquer une position des Maïmaï à Burembo avant de se retirer. Au nord Kivu, précisément à Beni, ce sont les EDF qui sèment la terreur dans ce territoire. Lundi 9 octobre dernier, ils ont attaqué une base de la MONUSCO située à Mamoudjouma. Deux casques bleus ont été tués et plusieurs autres blessés. Cet incident intervient à la suite d'une attaque survenue dimanche dans la même région où des éléments présumés des EDF ont tendu une embuscade à un convoi des civils circulant à moto sur la route entre Kamango et Mbaou. D'après les informations disponibles, une vingtaine de civils auraient été tués. Dans la nouvelle province de l'Ituri, les miliciens de la Force des Résistances Patriotiques de l'Ituri, FRPI en sigle, font parler d'eux. D'après les sources sur place, ces miliciens ont tué le mois dernier deux personnes à Kaliabungongo, sur la plaine du lac Albert. Également mis à leur actif, le kidnapping des 7 creuseurs d'or près de la rivière Talolo, en chefferie des Andisoma et l'attaque des villages de Kamati et Mudogo. Le porte-parole des FRDC explique que ces miliciens sont débandades depuis le lancement des opérations militaires contre eux dans la région. Et dans leur fuite, a-t-il précisé, ils opèrent en petits groupes en attaquant certains villages. Enfin, dans le Tanganyika, on signale la présence des Maïmaï à Panapale et Malaika qui ont repris leur activisme.
Merci à toi, Kelly Nkouté. Richard Chaco, rédacteur en chef à la radio-télévision du groupe de presse L'Avenir. Certains experts expliquent cette résurgence de l'activisme des groupes armés à un manque de volonté politique.
Bon, je ne partage pas ce point de vue, mais je suis seulement étonné que le ZADF, qui était presque mis en déroute depuis un certain temps, on ne parle plus des ZADF, après avoir égorgé pendant plus de 3 ans dans Beni, Butembo, Lubero, cette partie qu'on appelle le Grand Nord, qu'aujourd'hui puisse revenir en force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ADF ont pris le temps de se réorganiser pour attaquer. Et surtout, cette fois-ci, ils ont changé les modus vivendi pour modus operandi, il faut le dire. Maintenant, cette fois-ci, ils attaquent même les casques bleus.
Ils prennent l'initiative de l'attaque.
Ils attaquent
les casques bleus, même les positions
même des les positions FARDC. Ils attaquent. Et ils contrôlent même, jusqu'aujourd'hui, certains territoires que les FARDC ont du mal à reconquérir. C'est là où je me dis que je me demande comment les ADF se sont réorganisés, où est-ce qu'ils ont obtenu les armes. Et selon certains rapports, on dit même que certains ADF portent les tenues neuves des militaires du FARDC. Où est-ce que c'est là où j'ai dit qu'il y a parfois une complicité dans les chefs de nos dirigeants au sein de l'armée. Où est-ce qu'ils ont trouvé cette tenue de la militaire et même les munitions? Et c'est là où j'ai dit, il y a non seulement les ADF, même certains groupes armés, c'est là où j'ai dit, j'interpelle, je vois un complot sur le plan de nos voisins du Grand Lac. Avec ce qui s'est passé à Ouvira avec le Maïmaï Yakutumba. On a parlé des Burundais. J'ai dit, moi, je soupçonne les Burundis, je soupçonne les Rwandais avec les FDLR, je soupçonne l'Ouganda avec les ADF, avant de parler de d'autres ministres. C'est là où j'ai dit, il faudra suivre de très clair ces situations-là. Parce que, à mon sens, autant que M23 ont été anéantis aujourd'hui à partir à l'histoire, on doit aussi éradiquer ou neutraliser les ADF.
Merci. Rongo Taba, journaliste au journal L'Observateur, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Les groupes armés reviennent en force, en homme et en matériel. Richard Chaco l'a relevé. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que c'est lié à ces complots qu'évoque Richard Chaco, les complots, n'est-ce pas, ourdis par des pays limitrophes à la RDC?
Pas seulement des pays limitrophes à la RDC, même, Richard l'a dit aussi, même au niveau de Kinshasa ici. C'est une façon de dire aussi à Georges Kasongo que ne sont pas naïfs, mon frère. L'accord du 31 décembre n'est pas bien appliqué. C'est une mauvaise application.
Là, je crois que nous devons le reconnaître. C'est une mauvaise application. Puisque si cet accord-là était très bien appliqué, la MONUSCO ne reviendrait pas sur les termes d'application de l'accord
voilà.
du 31 décembre.
Alors, moi, je voulais dire que
le regain, justement, c'est à cause toujours de la mauvaise application de nos résolutions. Rappelez-vous, Guimaté, que je crois en 2008 ou en 2009, il s'est tenu une grande conférence sur la paix et la démocratie et le développement dans la région du Kivu. Et des résolutions ont été prises, notamment celle exigeant que tous les commandements, hein, les responsables militaires affectés dans ne soient pas originaires de là ou ne proviennent pas des anciens groupes armés ou des anciennes républiques. Mais jusqu'aujourd'hui, cette décision-là, cette résolution-là n'a jamais été mise en application. C'est toujours les mêmes anciens rebelles qui se retrouvent là-bas. Alors, quand Richard nous révèle ici qu'on découvre que les ADF et les autres portent les uniformes de FARDC, est-ce que nous ne pouvons pas être tentés de conclure carrément qu'il y a de la complicité dans tout ce qui se passe là-bas et qu'il y a une volonté de continuer à créer de l'insécurité dans cette partie de la République pour des ambitions louches de certains politiciens.
Merci. Georges Kasongo, chargé de programme et information de Up Channel TV basé à Kindu, au Maniema. Complicité, complot, et vous pensez que ces regains d'insécurité peut être attribué à quoi?
Bon, vous savez, les regains de l'insécurité avec la prolifération des bandes armées et beaucoup de bandes armées qui sont des groupes armés parce que les groupes armés ont une certaine structuration. Mais au niveau du Maniema ici, nous pouvons dire d'abord de façon générale que les groupes armés comme les bandes armées, certains nous paraissent comme entretenus de l'extérieur, d'autres entretenus de l'intérieur et d'autres c'est juste des aventures qui s'organisent au coin du village et ce sont les fils, les gars de la cité qui s'organisent en leur façon. Et nous pouvons dire comme ça. Mais les problèmes, je l'avais dit il y a environ 2 ans sur les antennes de la radio Kapiké, le fait de ne pas organiser les élections en 2016, ça serait un motif de donner aux groupes armés pour prévaloir, libérer Kinshasa et avec beaucoup de mots comme ça. J'avais même utilisé le mot des conquistadors locaux vont se regrouper pour avec des revendications fantaisistes qui voudront libérer Kinshasa à partir des Fizi ou bien des Rutshuru, des histoires comme ça, et heureusement que l'histoire vient de me donner la raison. Nous pouvons dire que ce qui se passe à Kinshasa serait, à mon avis, un motif supplémentaire qui donne de l'occasion, de l'opportunité à ces bandes armées de revendiquer telle ou telle autre histoire. Mais laisse-moi profiter de votre micro pour dire qu'ici chez nous au Maniema, il y a quelques jours, et la guerre a éclaté, il y avait sacrédité de partout, mais heureusement qu'il y a un calme relatif. Et les Maïmaï Malaïka se sont retirés sur toutes les lignes de front pour donner, disons, une chance à la paix. Mais également, toutes les activités ont repris aussi du Maniema, les écoles, les commerces et la libre circulation des personnes et des biens. Voilà ce qui est au moins du Maniema en fait,
là, vous parlez,
des groupes armés.
Georges Kasongo, là vous parlez du territoire de Kasongo qui était occupé récemment par les Maïmaï Malaïka.
Non, ce n'est pas seul le territoire de Kasongo, c'était le territoire de Kabambare, le territoire de Kasongo et de Kibombo. En 3 jours, tous ces 3 territoires d'ici qui constituent le site Maniema et dans une certaine mesure Chabunda frontalier ont été attaqués par les Maïmaï Malaïka. Mais actuellement, il y a un calme, libre circulation des personnes et des biens. Mais également, c'est comme si certaines de leurs revendications auront gain de cause d'ici là parce que
merci.
Nous venons de voir un arrêté du ministre qui crée 4 zones d'exploitation minière autour du carré de Banro, ce qui était la principale préoccupation ou bien revendication
merci.
Des Maïmaï Malaïka. Il reste tout simplement de savoir s'ils vont et ça va rencontrer leurs préoccupations ou bien ça va trouver leur assentiment par rapport à la situation de ces zones d'exploitation artisanale.
Merci Richard Chaco. Complicité, complot, crise politique serait à la base, n'est-ce pas, de cette recrudescence de l'activisme des groupes armés. Et à votre avis, la solution durable, idoine, c'est quoi aujourd'hui?
La solution aujourd'hui, d'abord sur les plans politiques, il faut qu'il y ait la lisibilité de l'action politique des chefs de nos acteurs politiques. Il ne faudrait pas que nous allions de crise en crise, parce qu'une fois que nous allons de crise en crise, il y aura toujours des tireurs de ficelles, ceux qui sont derrière les groupes armés pour chercher toujours à déstabiliser les pays sur les plans sécuritaires. Donc il faudrait qu'il y ait réellement un compromis, un consensus et de la bonne volonté politique des chefs de l'État. Si c'est une décision qui a été prise pour organiser les élections à une telle date, si c'était accepté, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui qu'on dise non, c'est impossible. Non, il ne faudrait pas que chaque fois qu'on s'approche des échéances, qu'on puisse créer des groupes armés. C'est ça le problème. Parce que j'ai remarqué que dans les chefs de nos dirigeants, il n'y a pas une volonté politique pour aller aux élections. Chaque fois. Et rien ne nous rassure que même les 504 jours que Corneille Nangaa nous dit pour lui donner, pour organiser la séquence jusqu'en 2019, que cette échéance sera respectée. Parce que je suis convaincu que aussi longtemps que d'autres personnes ne voudront pas qu'on ait aux élections, ils vont toujours chercher à créer l'insécurité ou à ne pas donner les moyens qu'on soit là. C'est là où j'interpelle la classe politique. D'abord, tout c'est sur le plan politique et aussi à la MONUSCO. Je crois que les groupes armés qui sont dans l'Est ne sont pas plus fortes que la MONUSCO. La MONUSCO a une brigade là-bas, a une mission bien déterminée, protéger les civils et puis neutraliser les forces négatives. Les déclarations des mamans syndicaux qui demandent aux groupes armés de déposer les armes ne doivent pas être des déclarations. Des déclarations. Mais il faut passer et se passer par là. Comme les ADF sont montrés, ils sont capables d'affronter le casque bleu, il faut maintenant que la MONUSCO, comme il l'a fait avec les Yakutumba, pilonner les navires qui contenaient les armes qu'on sort là. Merci. C'est ça que j'appelle la MONUSCO pour ses responsabilités.
Merci. Rombo Otaba, il faut, n'est-ce pas, neutraliser les groupes armés dans l'Est de la RDC. Et Richard Chaco propose un consensus politique qui découlerait, n'est-ce pas, d'une bonne volonté politique.
Oui, mais c'est ça, c'est le souhait de tout Congolais qui aime bien ce pays. Mais malheureusement, nous sommes là en face d'un groupe d'affairistes qui ne sont qu'à s'enrichir scandaleusement. Ce qui préoccupe les Congolais, ce n'est pas leur affaire. Et c'est l'enrichissement, et alors l'enrichissement. Et aujourd'hui, là, le constat est que le pays a dangereusement régressé. Et comme si nous voulions donner raison à Mobutu qui a dit qu'après lui, c'est le déluge.
Merci.
Et je crois qu'il faut que les Congolais, les vrais Congolais, se réveillent pour faire barrière à ce plan machiavélique qui est savamment monté à Kinshasa.
Merci. Geoff Kasongo, un mot en guise de conclusion. La solution, c'est quoi?
La conclusion pour moi vis-à-vis de toutes ces crises multiformes, c'est l'alternance au sommet de l'État pour donner une nouvelle chance à la République, mais aussi une nouvelle impulsion nationale.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Willem Lungamba qui était à la technique, à Alain Hirung qui a coordonné et réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci, à la semaine prochaine pour un autre numéro des Tribunes de la Presse. Et bon week-end sur Radio Capi.